Bienvenue à tous ceux parmi vous qui êtes ici ce matin. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux, j'imagine, et on aimerait vous souhaiter la bienvenue. Il y a des nouveaux qui nous visitent presque toutes les semaines. On veut vous saluer. Il y a un beau cadeau, un petit cadeau là pour vous à la fin. Il n'y a pas d'attache. Vous avez juste à vous rendre au kiosque à l'entrée. Mais si vous voulez avoir si vous avez des questions sur notre église, vous voulez comprendre et connaître un peu mieux ce qu'on croit, ce qu'on fait ici, la vision de l'Assemblée, vous pouvez donner votre nom au kiosque. On va faire un plaisir de vous rencontrer, vous donner un peu un aperçu de ce qu'on fait. En même temps, on salue les gens qui nous écoutent. Si vous êtes demandé pourquoi il y avait des caméras à l'entrée, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout à travers le Québec. Et puis, on aimerait les saluer. Ma fille nous écoute de temps en temps. Son mari aussi de Fermont, imaginez. Il n'y a plus de neige là-bas, mais il y en avait jusqu'à récemment. Là. Ouais, c'est terrible. Elle m'a envoyé une photo, puis il y avait une tempête de neige. J'avais de la neige, tiens, comme ça. Terrible, incroyable. Eh bien, moi, j'ai envoyé une photo, puis il y avait le soleil dans la cour, puis... C'est la taquiner un petit peu. Enfin, vous savez, on est dans une série, on a commencé une série dernièrement, et puis on est en train de voir un thème, Jésus dévoilé, et puis on est en train de regarder, on revient à la base pour comprendre qui est Jésus, et on a parcouru un peu les Écritures, les Saintes Écritures de la Bible pour voir que Jésus était un serviteur, Jésus était un roi, Jésus est Dieu. Alors, on a vu les évidences dans les Écritures. Ce matin, on va s'arrêter sur un aspect qu'on voit vraiment pas souvent. Ben, honnêtement, là, je me rappelle pas la dernière fois qu'on a parlé de ça. Peut-être le mentionner juste très rapidement. Mais c'est un autre rôle, c'est un rôle que Jésus a dans les Écritures. Et c'est Jésus le prophète. Non seulement Jésus est Dieu, non seulement Jésus est un homme, 100% homme, Jésus est un prêtre, on voit différents rôles dans les Écritures, on voit qui il est aussi, sa nature, mais il est un prophète. D'ailleurs, on apprend par l'Ancien Testament, un passage qu'on va lire, qu'il est le prophète des prophètes. Et il y a une raison pour ça, parce que le côté prophète a un rôle, et on va voir le rôle, Jésus vraiment exercer un ministère auprès des gens. On va en apprendre davantage tantôt. Comme prophète, il représente Dieu. Et comme prêtre, qui est un autre de ses rôles, il nous représente. Comme prophète, il vient nous parler de la part de Dieu. Mais comme prêtre, il parle à Dieu, le Père, pour nous. Il intercède pour nous. Il se tient en face de Dieu pour nous. Il est mort pour nous, à notre place. Il nous conduit à Dieu. Il est notre avocat, un terme que la Bible va employer. Il intercède pour nous. Il prend notre défense. Il est notre rédempteur, il est notre sauveur. Comme roi, il est souverain. Il est aux commandes, c'est lui qui commande, il règne. Et on lui doit notre allégeance, il est l'autorité suprême. Il est donc prophète, il est prêtre, il est roi, il est le révélateur, le rédempteur, il est le souverain. Et on ne peut négliger aucun de ses rôles. On ne peut pas juste comme choisir à la pige, tiens, moi, je vais prendre Jésus, le côté prophète, j'aime ça étudier les Écritures, je vais apprendre de lui, et puis on va rejeter l'autre côté. Tu ne peux pas faire ça. Il y a un déséquilibre à ce moment-là dans ta foi. Par exemple, certains vont mettre beaucoup d'accent sur l'étude biblique. Ils aiment étudier les Écritures, et avec raison. La Bible dit que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, et elle est utile pour construire notre foi. L'idée que Jésus soit un prophète les enchante. Ils aiment étudier ses enseignements. Mais ils ne vont pas l'obéir comme roi lorsque Dieu donne sa volonté. Ils vont mettre de côté cet aspect-là que Jésus est leur roi. Ils vont plutôt préférer le côté prophète de Jésus-Christ. D'autres, c'est le contraire, sont très obéissants. Ils le voient comme roi, mais ils se sentent souvent coupables. Ils traînent une culpabilité parce qu'ils négligent un autre rôle de Jésus-Christ qui est prêtre. Et ce rôle-là qui est rédempteur. Il faut donc voir Jésus comme prophète, comme prêtre et comme roi. Alors ce matin, on va prendre l'un de ces rôles, souvent négligé, et qui a été prophétisé des centaines d'années dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ est un prophète. Donc on va tourner dans un passage dans le Nouveau Testament. Et si vous n'avez pas de Bible, nous, ça nous ferait plaisir de vous offrir une Bible. On en a quelques-unes en arrière ici. C'est gratuit, on ne vous chargera pas pour ça si vous êtes nouveau, ça va nous faire plaisir. Vous avez juste levé la main, là, puis un placeur en arrière va vous offrir ça, ça va nous faire plaisir. Sinon, bien, tournons dans le livre des Actes, chapitre 3, et on va commencer la lecture au verset 17. Mais juste avant, on va demander à Dieu de bénir notre temps ensemble. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as même donné ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre ta parole, qu'on puisse la saisir. Tu nous accompagnes, tu illumines les yeux de notre cœur, tu dévoiles les richesses, les perles de tes Écritures. On te prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses parler à nos cœurs par ta parole. Et en même temps, on veut te prier pour ceux qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades ici à l'Assemblée. On veut te prier pour eux. On pense à des gens qui ne peuvent même se rendre ici à l'Assemblée ce matin car ils sont trop malades. On te prie pour ces chers frères et sœurs, que tu puisses mettre ta bonne main sur eux, leur faire du bien. Accompagner les médecins, Seigneur, pendant les traitements. Alors, on te prie, Seigneur. On te remet ce service entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Actes chapitre 3, on va commencer la lecture au verset 17, si vous voulez bien, et on va poursuivre jusqu'au verset 23. Maintenant, c'est juste pour vous mettre dans le contexte, c'est Pierre qui commence à prêcher à la foule. Il parle des Juifs non-croyants, qui ne croyaient pas vraiment. C'est délicat quand on dit que quelqu'un est non-croyant, parce que dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. C'était des croyants en Dieu, ils croyaient en Dieu. Mais ces Juifs n'avaient pas accepté que Jésus soit le Messie, alors que Jésus a accompli et réalisé les 300 quelques prédictions qui avaient été données des centaines d'années avant même sa venue. Il les a accomplies à la lettre, miraculeusement, des choses tout à fait extraordinaires. Mais plusieurs Juifs ont refusé cela. Et là, Pierre prêche à la foule, et dans le fond, la foule qui a crucifié Jésus. Il est en train de leur prêcher, il est en train de leur donner un message. Alors, voici ce qu'il dit au verset 17. On est dans ce milieu-là de la prédication de Pierre. Alors, verset 17, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs, les chefs religieux. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. » En d'autres mots, c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament que le Messie devait souffrir, alors que les Juifs attendaient le Messie, le Sauveur. Ils n'ont pas reconnu en Jésus. Mais Pierre est en train de dire, c'était annoncé ça dans l'Ancien Testament, qu'il devait souffrir. Alors verset 19, « Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » Et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse, verset 22, a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Et ça, ce sont des paroles pas mal sérieuses. Jésus est notre prophète, il est l'ultime prophète. Et qu'est-ce que ça signifie, ça? Bien, premièrement, Jésus est l'ultime prophète, signifie qu'on doit suivre sa parole. Nous avons ce verset que nous venons de lire au verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Alors, c'est une prophétie très puissante. Écoutez bien la portée des paroles de Moïse ici. Moïse, et là on parle de milliers d'années avant, là. Moïse dit qu'un prophète va surgir et son autorité sera telle qu'elle fera toute la différence en ce qui nous concerne. L'écouter ou ne pas l'écouter sera déterminant pour notre éternité et notre avenir. Nous serons acceptés ou refusés selon qu'on écoute ce prophète ou pas. Et Pierre précise qu'il s'agit de Jésus. Notre avenir sera déterminé par l'attitude que nous aurons à l'endroit de Jésus-Christ. Il est l'ultime prophète. Dans le passage qu'on vient de lire de Pierre, Pierre est en train de parler à la foule, puis il leur dit, juste avant, il leur dit, vous avez crucifié Jésus, le prince de la vie. Vous avez agi par ignorance, mais vous avez besoin de changer d'attitude maintenant, un terme qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament, qui parle de repentance. Vous avez agi par ignorance, mais vous avez besoin de changer votre attitude devant Jésus, car il est le prophète dont Moïse a parlé. Alors, nous avons besoin de suivre Jésus-Christ. Lorsque Jésus fut transformé, par exemple, sur la montagne de Transfiguration, il y a eu vraiment tout un miracle. Et là, Jésus était là, transformé tout d'un coup. Et c'est comme ses disciples, pour la première fois, voyaient le côté glorieux de Jésus. C'est comme si le ciel, le Seigneur, avait comme ouvert le rideau pour nous laisser voir le Jésus tel qu'il est, à peu près, parce qu'on sait bien que dans le ciel, il sera encore plus glorieux. Mais là, on laisse entrevoir sa gloire ici à ses disciples. Ses disciples sont ébahis. Et là, tu as Moïse qui revient, miraculeusement, qui est là avec Élie, avec Jésus. Ils s'entretiennent. Et tout d'un coup, il y a une voix du ciel, et c'est Dieu qui dit, dans Matthieu 17, nous lisons, « Une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et Dieu lui-même dit ceci, « Écoutez-le. » Voyez, « Écoutez-le. » C'est Dieu lui-même qui dit, « Écoutez-le. » Maintenant, on voit qu'on ne peut pas établir ni entretenir une bonne relation avec Jésus sans prendre en compte qu'il est l'ultime prophète. Il apporte la vérité. Il est la parole vivante. D'ailleurs, Jean va jusqu'à dire que la parole était Dieu. La parole a été faite chair, nous dit Jean. Alors, notre attitude face à Jésus est déterminante. Il est la parole vivante de Dieu. Dieu parle à travers son serviteur qui est Jésus-Christ. Nous lisons un autre passage dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 1, qui dit ceci, « Après avoir autrefois, de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres, parlé prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Alors voilà cette révélation de Dieu qui dit que Jésus-Christ a créé l'univers. Dieu parle à travers son Fils et on veut sa bénédiction sur nos vies. Mais on a besoin, évidemment, de dire oui à Jésus. Et là, tu dis, moi, j'ai la difficulté à suivre le Seigneur. Et tu as raison. La Bible dit qu'on est pécheur. Il y a une nature pécheresse en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour obéir à Dieu? Des fois, on lutte peut-être un peu plus fort dans certains domaines que dans d'autres. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, la plus grande motivation, c'est l'amour. Ça, c'est la plus grande motivation. Le seul moyen d'être plus obéissant au Seigneur est de retrouver son premier amour envers le Seigneur. Comment on fait ça? On se rappelle à quel point Jésus lui-même nous a aimés. C'est la plus grande motivation. Ton obéissance relève de l'amour de Dieu. Et c'est la différence entre la religion et l'Évangile. Et ça a été clé. Ça m'a pris des années à comprendre ça, à saisir ça. C'est la différence entre la religion et l'Évangile. Moi, il y a des gens ici que vous allez entendre, si vous êtes ici pour la première fois, vous allez entendre des gens dire, moi, j'ai pas de religion, j'ai une relation. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Je sais, moi, c'était un de mes clients qui m'a parlé de Jésus-Christ. J'étais dans les affaires, dans le couvre-plancher. Puis justement, j'étais venu ici. J'étais un gars de Montréal. J'étais venu ici. Mon client m'a invité au restaurant pour parler de Jésus-Christ. Puis ça, c'était une chose qu'il m'avait dit. Il dit, normalement, moi, je ne te parlerai pas d'une religion. Tu vas remarquer, je ne te parle même pas d'une église. Je vais toujours te parler d'une personne. Je vais te parler de Jésus-Christ. Et c'était clé, c'était important qu'il le fasse. Parce que moi, j'avais deux religions chez nous. Mon père était un juif. Ma mère était catholique. Je voulais pas une troisième religion. Ça m'intéressait pas, là. Mais lorsqu'il a dit, lorsqu'il m'a parlé de Jésus-Christ, il m'a parlé d'une personne, ça a fait toute la différence. Et c'est ça qu'on a besoin de retrouver. On a besoin de retomber en amour avec Jésus-Christ, de se souvenir à quel point lui nous a aimés. Voici la différence. Les religions fonctionnent sur la base du principe. J'obéis, je suis donc accepté par Dieu. Alors que le principe de base de l'Évangile est plutôt « Je suis accepté par Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, donc j'obéis. » En d'autres mots, l'obéissance est simplement, on veut remettre à Dieu, on veut lui montrer à quel point on apprécie l'amour qu'il a eu envers nous, alors que nous-mêmes, lorsque nous étions des pécheurs, Jésus-Christ est mort à notre place sur la croix. Imaginez. Moi, lorsque Jésus est venu parler à travers mon client, moi, je pensais d'avoir une commande, faire un peu d'argent et tout ça au restaurant, là. Mais c'était pas ça, finalement. Il venait juste de me partager qu'il venait de demander à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie depuis 2 mois. Et ça a été une surprise, premièrement, pour moi, honnêtement. Mais là, il a commencé à me parler de Jésus-Christ, puis me partager ce que Jésus avait fait pour moi et comment j'ai été touché par ça, et Dieu a vraiment touché mon cœur. Et pourtant, j'étais un blasphémateur. Moi, je ne voulais rien savoir de Dieu. Alors, pourquoi Dieu est venu tranquillement s'approcher de moi et toucher mon cœur alors que je ne méritais pas du tout que le Seigneur vienne par dans mon cœur me révèle son Fils? C'est sa grâce. Donc, voyez-vous, le principe de l'Évangile, c'est ceci. Je suis accepté par Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, j'obéis. Donc, je veux le suivre. Jésus ne nous aime pas parce qu'on est beau. Non, on devient beau grâce à son amour qui l'a poussé à aller jusqu'à la croix pour moi. On prend un exemple. Tu as de la misère avec l'égoïsme. Tu es égoïste, tu as de la misère, tu n'es pas généreux du tout, tu es avare, tu as de la misère avec ça, tu combats avec ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu pourrais, dans un sens, faire quelque chose que bien des gens vont faire, ils vont se forcer. Ils vont dire, OK, là, il faut que je me parle, il faut que je sois généreux. Il faut que je sois généreux. Mais ça peut peut-être marcher une fois, deux fois, tout ça, mais ça ne change pas le cœur. Tu veux voir une personne changer complètement? Regarde-les quand ils tombent en amour avec quelqu'un. As-tu remarqué ça? Tu peux avoir quelqu'un de hyper égoïste. Hyper, pense toujours juste à lui. Il tombe en amour avec une belle fille. Il tombe en amour par sa tête. Le même gars qui était hyper égoïste devient hyper généreux. Il y a pas de dépense trop chère pour ça. C'est vrai? D'ailleurs, moi, quand je rencontre des couples qui ont de la difficulté dans leur mariage, parfois, c'est ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire, oh, j'aimerais tellement ça qu'il soit comme quand on se fréquentait. Ça me semble c'est pas compliqué. T'as pas besoin d'un cours de théologie très profonde pour comprendre comment avoir un meilleur mariage. Fais juste agir comme t'agissais quand tu la fréquentais. Je te le dis, ça va changer du tout au tout. Est-ce que j'entends des amen? Il y a peut-être des femmes qui ont dit, écoute-les le matin, là. L'amour, c'est la plus grande motivation. C'est la plus grande motivation, l'amour. Alors, à mesure que tu vas contempler la générosité que Jésus-Christ a eue, lui qui était riche est devenu pauvre, pour toi, à mesure que tu réfléchis, que tu médites et tu contemples ça, ce geste d'amour que Jésus a eu à ton égard, en allant jusqu'à la croix, pour toi, tranquillement, tu vas voir ton cœur, va s'attendrir, va être touché et va changer. Et tu vas vouloir devenir généreux. C'est comme ça que ça marche. L'amour, c'est ce qui réussit à toucher notre cœur. C'est la plus grande motivation. Jésus est donc notre prophète. Il est l'ultime prophète. Alors, on a besoin de suivre sa parole, de suivre. On veut marcher avec lui. On veut lui plaire. Et comme ultime prophète, il est également le chemin vers Dieu. Il est le chemin vers Dieu. Il n'est pas un des chemins. Et c'est ce qui est difficile pour les gens aujourd'hui parce qu'on vit dans une époque de postmoderniste où on dit, bon, bien, ça fatigue quand on parle de la vérité. Mais la vérité, mais pourtant dans les Écritures, c'est très tranchant. C'est tranchant. Jésus est l'ultime prophète, signifie qu'il est le chemin. Jésus lui-même l'a dit, hein, je suis le chemin, il n'a pas dit pluriel. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est tranchant, ça. Alors, on voit à un moment donné, lorsque Jésus est mort, les gens étaient vraiment découragés parce que les gens n'avaient pas encore vu Jésus ressuscité. Et les gens étaient découragés, ils avaient mis beaucoup d'espoir, tout leur espoir, dans le fond, sur Jésus-Christ. Et voilà que Jésus meurt. Et il y a deux disciples, entre autres, qui marchent, qui reviennent de Jérusalem, ils se dirigent vers Emmaüs, vers un village d'Emmaüs. Ils sont en chemin. Et là, tout d'un coup, ils sont découragés parce que c'est le troisième jour, c'est la journée de la résurrection. Jésus est ressuscité, mais eux, ils ne l'ont pas vu. Ils savent pas qu'il est ressuscité, ils pensent qu'il est encore mort, et ils sont vraiment découragés. Et là, il y a un étranger qui vient, en fait, c'est Jésus-Christ, mais ils ne le reconnaissent pas. Il n'est pas donné qu'ils le reconnaissent. Et Jésus s'approche, donc pour eux, c'est un étranger qui s'en vient, puis leur demande, cet étranger-là leur demande, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez, ils étaient découragés, ils marchaient, tout ça. Et les étrangers, et pour eux, les deux disciples sont très découragés, puis sont même un peu étonnés de voir l'ignorance de cet étranger-là. Il dit, franchement, c'est pas ce qui se passe. C'est la une des quotidiens, c'est le journal de Jérusalem, tout le monde en parle. Jésus est mort. On a mis notre espoir en lui. Et là, tranquillement, s'amorce une discussion entre Jésus et ses deux disciples, où Jésus va exercer son rôle de prophète. Et tranquillement va démontrer par l'Ancien Testament et plusieurs versets pour leur enseigner qu'il est, que tout l'Ancien Testament pointe vers lui et finalement qu'il est le chemin pour se rendre à Dieu. Alors, on va lire une section. J'ai demandé à mon frère Joël de lire cette section-là qu'on va retrouver dans Luc 24, dans le Nouveau Testament. Luc 24, verset 13. Et écoutons bien cet échange entre Jésus et ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Ce même jour, deux disciples se rendaient au village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »« Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, ce qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 44. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
Alors, voici les deux disciples qui disent à Jésus, ils décrivent Jésus-Christ. Il dit, Jésus était un prophète puissant. Les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils sont en train d'avouer, dans le fond, on espérait que c'était pour être le Messie. On avait mis notre espoir sur lui. Dans le fond, ce qu'ils espéraient, lorsqu'ils parlent de délivrance d'Israël, dans le fond, ils espéraient que le Messie arrive et les délivre de l'emprise romaine, évidemment. Ils sont découragés, ils sont désillusionnés. Ils avaient mis leur espoir vraiment en Jésus. Ils croyaient qu'il allait délivrer Israël. Et là, ce que Jésus va faire, il va commencer à leur expliquer l'Ancien Testament. Il va démontrer à travers l'Ancien Testament que les prophéties à l'endroit du Messie qui devait venir s'appliquent, se réalisent en Jésus-Christ, en lui. Et nous voyons verset 25, « Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses? » En d'autres mots, l'Ancien Testament aussi parlait que le Messie allait souffrir. Et ça, c'est très difficile pour les Juifs de comprendre que Dieu aurait laissé son fils mourir à la croix. Je vous ai déjà partagé ça. J'ai passé du temps, moi, avec des rabbins de Jérusalem. Et quand je leur parlais de l'Évangile, ça, c'était une des choses qu'ils disaient. Moi, j'ai un rabbin, d'ailleurs, qui me l'avait dit. Il dit, moi, normalement, ce que j'ai, mon problème, c'est d'accepter que Jésus, que le Messie doit souffrir et que Dieu le laisse souffrir. Alors, c'est gros, là. C'est gros, ça. Particulièrement pour les Juifs. Alors, les disciples sont là. Et pourtant, l'Ancien Testament témoigne de cela. L'Ancien Testament prédisait que le Messie devait souffrir. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, écoutez, vous ne comprenez pas, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, ça disait, ça annonçait déjà que le Messie devait souffrir. Ça faisait partie de son plan pour, évidemment, finalement, aller à la croix pour prendre... Il était l'agneau qui allait prendre sur lui les péchés du monde. Puis, en commençant par les Écrits de Moïse, verset 27, et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Imaginez, il est passé à travers des passages de l'Ancien Testament pour leur expliquer, regardez, ça pointe vers moi. C'était là. Il dit, homme sans intelligence. On pourrait voir ça comme une insulte, mais s'il y avait quelqu'un qui aurait dû savoir ces choses, c'était les Juifs, et particulièrement les chefs religieux, passer des heures à des heures à étudier l'Ancien Testament. S'il y avait une des choses. Mais le point qu'on voit, c'est qu'il y avait un aveuglement spirituel qui était là. Jésus dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les Juifs auraient dû comprendre ça. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant lorsque tu regardes les discussions des rabbins et des Juifs aujourd'hui, en 2015. Parce que vous savez, les rabbins, ils se font poser la question, les rabbins, ils ne croient pas que Jésus est Dieu, que non plus, mais ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Ils refusent de croire que Jésus est le Messie, donc, mais ils attendent encore le Messie. Et là, les Juifs leur posent la question, parce que tu sais, t'es rabbin, t'es supposé d'enseigner, t'as des réponses, alors ils posent la question, puis plusieurs personnes posent des questions au rabbin, leur demandent, mais d'accord, ok, si c'est pas Jésus le Messie, quand est-ce qu'il va venir? On l'attend encore, ça fait longtemps, on l'attend, ça fait mon ami. Alors les rabbins sont sérieux, ils veulent répondre, moi j'ai rencontré plusieurs rabbins, ils sont très sérieux, là, ils veulent, ils sont là, ils veulent répondre aux gens, et là, il y a des Juifs qui ont commencé, des rabbins qui ont commencé à faire des recherches, tout ça, parce qu'ils voulaient donner une réponse à ceux qui voulaient avoir des réponses. Alors, il y en a un du nom de Rie Citron. En français, ça s'appelle Citron. J'aimerais pas ça m'appeler comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le même, ça s'appelle comme un citron. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça leur nom. Rie Citron. Je vais dire en anglais, ça paraît un petit peu mieux. Alors, c'est un gars qui enseigne, c'est un rabbin, puis il enseigne la loi juive en Floride. Puis, il s'est posé la question. Très humblement, il s'est posé la question, il a dit, OK, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire venir le Messie? Est-ce qu'on peut contribuer à ça? Est-ce qu'on peut, comme en quelque sorte, favoriser qu'il vienne plus vite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Messie vienne et vienne plus vite? D'accord? Alors, il a réfléchi là-dessus, il a étudié la Bible, étudié l'Ancien Testament, tout ça, puis le Talmud, ses écrits juifs, etc. Puis voici ce qu'il répond. Il dit, OK, j'ai réfléchi, j'ai pensé à tout ça, puis il dit, voici la réponse du rabbin. Il dit, il incombe à chaque Juif d'accomplir sa part pour hâter l'arrivée du, eux autres appellent ça le Mashiach, qui est le Messie finalement. Alors, il incombe, c'est la responsabilité de tous les Juifs d'accomplir, de faire sa part afin d'accélérer la venue du Messie. D'accord? En d'autres mots, l'obéissance. Plus tu obéis, plus que tu pousses, qui t'incite le Messie à venir plus vite. Puis là, il donne des exemples. Par exemple, il dit, le Talmud enseigne que chaque prescription, ce qu'ils appellent les mitzvahs, que nous faisons, va accélérer finalement l'avènement de la rédemption finale. Premièrement, il dit, il faut croire à la rédemption. Il faut prier pour la rédemption. Il faut augmenter ses dons à des pauvres, la charité, tout ça. Il faut augmenter l'influence auprès des autres, à observer la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Là. D'accord? La loi, ce qu'on appelle, dans le fond, livre de la loi. Il faut se repentir. de ses péchés. Il faut étudier à propos et vivre avec l'ère du Messie. Il faut, en d'autres mots, vivre comme s'il était là. Il faut augmenter son amour pour son prochain. Il faut être méticuleux dans le respect des lois du kasherut, qui veut dire le code alimentaire. Donc, il faut manger kasher. Tu t'en vas en Israël, tu vas avoir un beau McDo, puis un trio, Big Mac, puis c'est kasher. Écrit en hébreu, kasher. Il faut que tu manges, c'est le code alimentaire. Il faut respecter ça. Et si tu respectes ça, entre autres, parmi les autres choses, tu vas accélérer la venue du Messie. Il faut avoir plus d'enfants aussi. Si tu as plus d'enfants, il dit le rabbin, ça va aider à aller plus vite. En d'autres mots, sois meilleur. Tu n'es pas assez bon, sois meilleur, et peut-être tu vas accélérer la venue du Messie. Mais là, les Juifs ont vraiment un problème. Parce que les Juifs ne peuvent pas, ils le savent en passant, les rabbins le savent, ils peuvent absolument pas obéir à toutes les lois. Les Juifs ont estimé que dans les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle la Torah ou ce qu'on appelle la loi, il y aurait 613 prescriptions. 613 lois. D'accord? Ils ont compté. J'ai le livre chez nous qui donne tout un après l'autre, etc. Fait qu'il y a il y a 613 lois. Donc, 365 négatifs. En d'autres mots, tu ne feras pas ceci ou tu ne feras pas cela. Et 248 positifs. Tu feras ceci, tu observeras ça. D'accord? Là, on a un problème parce que tu es juif, le temple est détruit depuis l'an 70, l'empereur Titus est arrivé, tu fais brûler, puis tout ça, tu n'as plus de temps, tu ne peux même plus aller pour offrir un sacrifice. Et là tu peux pas, fait que finalement, tu ne peux pas obéir à la loi. D'ailleurs, les rabbins ont tiré la conclusion que finalement, il dit, jusqu'à ce que le Messie vienne, on ne peut pas observer plus que 207 des 613 lois. Mais là t'es pogné, là. Parce que d'un côté, si tu veux accélérer la venue du Messie, il faut que tu obéisses le plus possible aux lois, mais en même temps, tu es en train de me dire, c'est absolument impossible d'obéir à toutes les lois. Juste 207. Qu'est-ce que tu fais? Les rabbins sont grattés à la tête, puis ils ont commencé à réfléchir, ils disent, écoute, non. Ils sont sérieux, là. Écoutez, moi, j'ai passé assez de temps avec eux autres, là, quelques années, là. Je sais comment ils pensent, là. Puis ils travaillent fort, ils sont là. J'ai beaucoup d'affection pour eux, là. Beaucoup d'amour pour eux. J'ai partagé l'Évangile à quelques-uns. Il y a même un rabbin de Jérusalem qui était très touché en lisant le Nouveau Testament. C'était la première fois qu'il découvrait Jésus. C'était mort, là. Alors là, il y a un rabbin qui s'est penché là-dessus. Il dit, ben oui, effectivement, on est pogné. On est pogné, on est pris. Parce qu'on n'est pas capable d'obéir à la loi. On ne sera jamais assez bon. Donc, lui, il est retourné puis a étudié la Bible. Il a étudié la Bible, il a étudié le Talmud aussi, c'est écrit, c'est la littérature juive, puis il arrive à la conclusion. Il dit, il a étudié les prophéties de l'Ancien Testament, d'accord? Et voici sa conclusion. Il dit, OK, oui, il y a une porte de sortie, effectivement, il y a une porte de sortie. Il dit, d'après les Saintes Écritures, l'un des scénarios possibles de la délivrance messianique, c'est si le peuple juif n'est pas méritant, s'il ne mérite pas que le Messie vienne, en d'autres mots, trop pécheur, si le peuple juif n'est pas méritant, le Messie viendra à Jérusalem, pauvre et monté sur un âne. Il explique que le Messie devrait venir assis sur un âne, parce que cela exprime l'immense humilité qui sera celle du Messie. Certes, il sera roi. Alors, d'un côté, il sera roi. Il sera élevé au-dessus du peuple. Mais il sera pourtant extrêmement humble, pauvre et monté sur un âne. Il continue en disant, pour les animaux, l'âne représente la simplicité. C'est également ce qui va caractériser le Messie. Il va venir dans l'humilité. Il se comportera avec la grandeur, la puissance et la gloire qui sied à la royauté, mais il aura aussi en même temps l'humilité et la simplicité des gens du peuple. À imaginer. Hein? C'est fort pareil. Hein? Vous vous rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque Jésus est entré à Jérusalem, que finalement il rentre à Jérusalem, il est rentré quoi? Assis sur le dos d'un âne. Et vous savez, ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient ont commencé à crier des Alléluia, puis ils ont dit, Hosanna au fils de David, où vous avez la royauté fils de David, qui était un titre messianique rendu au premier siècle, fils de David, et en même temps vous avez l'humilité assis sur un âne. Et c'est fascinant quand tu regardes l'attente messianique des Juifs, parce que maintenant même les rabbins ont commencé, certains rabbins, parce que vous savez, il n'y a pas d'unanimité, chez les rabbins, chez les juifs, tout ça, c'est plein de réflexions. Mais certains ont même commencé à dire que peut-être même il serait Dieu. Fascinant pareil. Alors Jésus dit à ses deux disciples, vous comprenez pas que dans l'Ancien Testament déjà ça parlait de moi et ça parlait qu'il devait souffrir, je devais souffrir. C'est la clé, c'est l'apogée que je devais être offert en sacrifice pour vos péchés. C'est l'aveuglement spirituel. Et en passant, on était tous là. N'est-ce pas? Ça prend une intervention de Dieu pour ouvrir les yeux de notre cœur, pour comprendre qui est vraiment Jésus-Christ. Ce n'est pas intellectuel seulement, cette affaire-là. Ce n'est pas qu'on met notre intelligence au neutre. Non, il y a des choses très solides. Mais en même temps, il y a une intervention de Dieu lui-même pour ouvrir notre cœur. Et Jésus, là, va commencer à leur montrer l'Ancien Testament. Que l'Ancien Testament parle de lui, et ça prédisait déjà des centaines d'années qu'il devait souffrir. On pense à Isaïe 53, il y a même des rabbins qui disent que le Messie devra souffrir. J'ai lu un article cette semaine d'un rabbin qui a été écrit aux États-Unis, qui disait, le Messie, quand il va venir, il faut qu'il souffre. Parce que Isaïe 53 parle de la souffrance, qui va prendre nos péchés sur ses épaules. Il parle comme ça. C'est fascinant. Mais c'est ce que Jésus a fait. Alors, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes. En d'autres mots, Moïse, ça c'est les livres de la loi, parlait du Messie qui s'en venait, qui devait souffrir. Ça prédisait, ça parlait de lui. Les prophètes aussi. D'ailleurs, au verset 44, Jésus va même ajouter les livres poétiques, parle des psaumes. Et verset 45, Jésus dit alors, il est écrit plutôt, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi qu'il était écrit, il fallait que ça arrive, que le Messie souffre et qu'il ressuscite le troisième jour. Maintenant, Paul dit la même chose dans Actes 26-22. Paul, lorsqu'il parle au roi Agrippa, va citer l'Ancien Testament pour justifier, pour démontrer, montrer l'évidence que Jésus est bel et bien celui annoncé. Il dit, je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Philippe aussi, vous vous rappelez de lui, Philippe qui lisait dans Ésaïe, et puis à un moment donné, Paul, l'Éthiopien qui lisait dans Ésaïe, puis Philippe arrive et va le rencontrer pour lui expliquer qu'est-ce que ça voulait dire ce passage dans Ésaïe, parce que l'Éthiopien ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce que ça disait le passage, et là, on va commencer à lui parler de Jésus-Christ, comme quoi que ça s'applique à Jésus. Alors, Philippe prit la parole, et en parlant de ce texte de l'Écriture, qui est Ésaïe, il lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Alors, ça, c'est les prophètes, Ésaïe. Le prophète Ésaïe parlait de Jésus. On voit que l'Ancien Testament disait déjà que le Messie devait souffrir, qu'il allait ressusciter, qu'il allait être rejeté, qu'il viendrait humble, mais roi. Et l'apôtre Pierre, qui rencontre Corneille, un non-juif, fait également référence à ces détails concernant le Messie dans l'Ancien Testament. Il dira dans Actes 10, nous lisons, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a destiné à désigner juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui, qui met sa foi en Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. Tu veux te pardonner, tu viens à Jésus-Christ. C'est fort. C'est la déclaration la plus explicite du livre des Actes où il est dit que le Messie serait le juge universel. Et ce juge Jésus, il va juger l'humanité. Et cela était déjà prédit dans l'Ancien Testament. Pierre explique l'importance et la nécessité pour nous de croire en Jésus-Christ si nous voulons être sauvés, si nous voulons la vie éternelle, le pardon des péchés. Si nous voulons avoir une relation avec Dieu, il faut aller à Jésus-Christ. Car Jésus est le Sauveur et il est le Juge. Maintenant, l'Ancien Testament nous révèle plusieurs choses sur Jésus, confirmant qu'il est le chemin vers Dieu. On voit dans l'Ancien Testament qu'il va pardonner les péchés. On voit qu'il sera juge, il sera le Sauveur, il va souffrir, il va être crucifié, il va ressusciter puis il sera glorifié. D'ailleurs, on a préparé une petite feuille en arrière, si vous voulez. Il y a une feuille qui fait comme un tableau qui parle de certains passages de l'Ancien Testament. Et qui parle comment Jésus accomplit vraiment accompli ces prophéties qui avaient été données des centaines d'années avant. Et d'ailleurs, en haut de la feuille, j'ai mis une référence d'un site Internet qui est un endroit où il y a plusieurs articles parce que le site cherche à démontrer aux Juifs que Jésus est bel et bien le Messie. Donc, ça s'adresse à des Juifs qui ne sont pas encore convaincus que Jésus est le Messie pour leur faire l'évidence, leur montrer l'évidence. Et ça se fait, mais ça prend la grâce de Dieu, mais ça se fait. Moi, j'ai un rabbin, moi, qui a été profondément touché. Il y a des Juifs, même, qui se sont convertis à Montréal lorsqu'on a commencé à regarder l'Évangile et comment Jésus était présenté dans l'Évangile. Ils ont réalisé que Jésus ne doit absolument être le Messie dont parle l'Ancien Testament et qu'on attend. Alors, d'où cette parole de Paul dans 2 Corinthiens 1, 20, qui dit ceci, qui résume tout, finalement. Il dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, vous savez qu'il y a à peu près 1000 promesses dans la Bible, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui, Jésus, que nous disons amen à Dieu pour sa gloire. Paul est en train de nous dire que toutes les promesses de Dieu se réalisent en Jésus-Christ. Tout passe par lui. Jésus est le oui de Dieu. Tout passe par là. Alors, Jésus est notre prophète. Il est l'ultime prophète. On veut le suivre. Il est le chemin vers Dieu. Il est l'ultime prophète. Ça signifie aussi qu'il nous révèle Dieu. C'est le rôle du prophète de nous faire connaître Dieu. Puis regardez ce qui se passe au verset 44. On revient avec ce verset. On va laisser faire le verset 27, juste le verset 44 qui dit ceci. « Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, regardez bien le mot ici. « Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » Moi, ça m'encourage beaucoup, cela, le mot « ouvrir ». Il y a deux mots vraiment qu'on pouvait servir pour ouvrir. Par exemple, tu peux dire « ouvrir une porte ». Le mot « ouvrir » s'employait lorsque tu disais « je vais ouvrir une porte ». Mais dans le fond, la porte n'est pas fermée. La porte, si elle est fermée, elle a tout le mécanisme pour que tu puisses l'ouvrir et passer l'autre bord. Ça, c'est un des mots dans le texte original dont on aurait pu se servir. Comme une porte, une poignée. Il y a le mécanisme qui est là pour ouvrir la porte. D'accord? C'est ouvrable. On peut entrer. Il y a un autre mot, par contre. Si on s'en sert pour une porte, la porte est verrouillée, puis est fermée, puis est barrée. En d'autres mots, il faut vraiment comme rentrer, percer, faire un trou. C'est à peu près comme s'il y a un mur ici, puis on disait, il faut que tu passes à travers ça. Il faut vraiment que tu fasses un trou. C'est à peu près comme la 50 avec les montagnes, les vallées, tout ça, toutes les montagnes. Il a fallu faire un trou, faire un passage. Tu crées un tunnel en perçant, puis en perforant, si tu veux, la montagne. Eh bien, c'est exactement ce mot-là qu'on va se servir ici dans Luc. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. En d'autres mots, indépendamment des doutes qu'on peut avoir, et ça c'est vraiment encourageant, des doutes, et Jésus-Christ a cette habileté de pouvoir percer les cœurs les plus durs avec l'Évangile. Et certains parmi vous, là, vous étiez là, vous étiez pas mal durs. Moi, je blasphémais même avant de venir Jésus. Je voulais rien savoir de Dieu, absolument rien. Mais Dieu a tranquillement travaillé dans mon cœur, puis il a percé toutes les couches, là, tous les raisonnements que je pouvais avoir, tranquillement, il les a enlevés pour rejoindre mon cœur, puis attendrir mon cœur. Ça, c'est vraiment encourageant parce qu'on a des enfants à qui on partage l'Évangile, puis on aimerait que nos enfants puissent se coller au Seigneur. Et parfois, ils vont faire un détour. Puis ils vont repousser ces choses-là. Ils vont repousser l'Évangile. Mais restons confiants, prions le Seigneur, que le Seigneur, c'est lui qui a la puissance d'aller rejoindre les cœurs les plus fermés. Moi, j'ai vu vraiment des gens là, j'étais vraiment sidéré d'entendre des témoignages de certains parmi vous, comment Dieu est allé vous chercher pour attendrir votre cœur, pour que vous puissiez venir à Jésus, pour recevoir son salut. C'est merveilleux. D'ailleurs, en avoir eu le temps, ce matin, on aurait peut-être pu vous donner l'occasion à quelques-uns parmi vous de donner votre témoignage, comment Dieu s'y est pris pour gagner votre cœur. Et c'est magnifique. Et ça, c'est un miracle, ça relève de lui. Alors, on explique, regardez bien ce que Jésus a fait. Il a enseigné, il a expliqué les Écritures, mais le Saint-Esprit a fait son œuvre, Jésus-Christ a fait son œuvre par son esprit pour tranquillement percer ce cœur qui était impénétrable. Amen. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps ensemble ce matin. et se rappelle que Jésus-Christ est l'ultime, le prince des prophètes. Oui, Jésus est Dieu. Il a agi comme serviteur. Il est le roi des rois. Mais il est aussi prophète. Merci, Seigneur. Ce matin, nous voulons te suivre, marcher avec toi. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore dit oui à Jésus, nous demandons, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses justement rejoindre son cœur, lui ouvrir les yeux de son cœur, illumine son cœur, afin qu'il puisse voir la beauté de l'Évangile et venir humblement à Jésus pour ta gloire. Amen.